Il est 6h20, le CDJM. C'est un tout nouveau sigle qui nous concerne, vous et moi. C'est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, une instance qui va être fondée aujourd'hui et qui a pour but affiché de réduire le fossé grandissant entre les journalistes et les citoyens, fossé qui s'est encore creusé avec la crise des gilets jaunes. Elle est censée répondre à ce désamour, voire à la haine que suscite parfois la presse. Mais cet organisme fait aussi débat. Depuis des années, d'ailleurs, une vingtaine de rédactions refusent d'y participer. À commencer par celle de France Inter, mais je peux vous citer aussi Le Parisien, Le Figaro, Mediapart, L'Obs, Le Point, TF1, 20 minutes et d'autres. L'assemblée fondatrice de ce CDJM se tient aujourd'hui à Paris. Bonjour Alexis Lévrier.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'histoire du journalisme, maître de conférences à l'université de Reims et chercheur associé au CELSA. Alors je précise d'emblée que vous n'avez aucun lien avec ce conseil. Est-ce qu'il vous semble utile? Y en a-t-il vraiment besoin?
Je pense, oui, on a besoin d'une instance qui permette de la médiation avec le public et qui permette une autorégulation. Mais il ne s'agit pas, je crois que c'est très clair de la part de l'ODI, donc l'Observatoire de la déontologie de l'information.
Qui est à l'initiative.
Qui est à l'initiative, qui a été lancée en 2012. Et l'idée d'un conseil, c'est encore antérieur. Depuis 2007, on en parle aux Assises du journalisme. Donc je crois qu'il s'agit pour eux de permettre aux journalistes d'améliorer leurs pratiques et de se rapprocher du public. Et comme vous le rappeliez, la crise des Gilets jaunes a montré à quel point c'était nécessaire, mais pas du tout de sanctionner les journalistes. Le Conseil n'aura pas de pouvoir de sanction, même symbolique. Et je crois que c'était ça le plus important. Il y a une tentation de la part des responsables politiques, quels qu'ils soient, qui est de
Jean-Luc Mélenchon notamment, qui réclamait des sanctions.
Alors, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, avait dit qu'il fallait créer, c'était dès la fin 2017, après un passage à l'émission politique qui lui avait déplu, il avait réclamé la création d'un tribunal professionnel des médias. Et c'est, alors après, il a changé le terme, puisqu'il a lancé une pétition qui a réuni quand même 200 000 personnes, 200 000 signatures, pour un conseil de déontologie. Et là, il s'est réjoui de cette création, mais en disant c'est insuffisant, ça n'est qu'un premier pas, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un pouvoir de sanction.
Mais en gros, ça va être quoi? Ça va être comme un CSA, mais pas uniquement donc pour l'audiovisuel, pour toute la presse, mais un CSA qui n'a pas de pouvoir de sanction. On peut le résumer comme ça?
On peut le résumer comme ça, et c'est une des ambiguïtés, c'est quel va être le périmètre de chacune de ces deux instances, parce que le CSA s'approprie aussi les questions de déontologie, et comme vous le rappeliez, a lui un pouvoir de sanction. Donc il va y avoir une co-régulation par ces deux instances, mais ce qui est intéressant avec ce conseil, c'est qu'il est indépendant. Il y a un tiers de représentants des journalistes, un tiers de représentants des éditeurs et un tiers de représentants du public. Ça n'est pas lié à l'État, et contrairement à ce qui est dans...
Oui, j'allais y venir, c'est que les détracteurs, ceux qui sont farouchement opposés à ce CDJM, dénoncent une mise au pas de la presse. Je vais vous citer Étienne Jernel, le directeur du Point, qui est également chroniqueur dans le 5-7 de France Inter. Étienne qui dit « C'est un machin gouvernemental monté par des apparatchiks qui veulent donner des leçons aux autres et qui répondent aux ordres d'Emmanuel Macron. » Est-ce qu'il y aura des liens avec l'État?
Non, alors franchement, le président de l'ODI, c'est un universitaire très renommé qui s'appelle Patrick Evenot, qui est totalement indépendant du pouvoir. Et je ne pense pas qu'il ira rendre des comptes à Emmanuel Macron.
Et qui finance?
Ah, ça, c'est une question à poser, mais je pense que les journalistes seront mis à contribution, en tout cas les éditeurs, s'ils acceptent de rejoindre ce conseil.
Mais ce ne sera pas de l'argent de l'État, ce ne sera pas de l'argent public.
Ça, je n'en sais rien. Effectivement, d'accord, vous posez une bonne question. Mais ça sera toujours mieux que le CSA, dont les membres sont nommés directement par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale ou le président de la République.
Mais on ne peut pas nier quand même que ce projet a été porté par une mission du ministère de la Culture qui a
confié
quand même...
Emmanuel Hogue, voilà. Effectivement. Bien sûr, vous avez raison, sauf que la mission a été confiée en 2018, l'ODI existe depuis 2012, on le disait, et puis surtout, il faut rappeler qu'il y a 18 pays européens, avant la France, qui avaient créé l'équivalent, donc des conseils de presse ou des conseils de déontologie, le nom change, mais c'est la même réalité. Il s'agit d'outils de médiation à destination du public, et pas d'outils de sanction.
Mais il y a déjà des garde-fous. Je prends l'exemple de Radio France, c'est celui que je connais le mieux. Il y a une SDJ, il y a une médiatrice, il y a un comité d'éthique, avec des personnes qui ne sont pas membres de Radio France. À tout cela s'ajoutent évidemment les chartes de déontologie qui existent déjà pour toute la presse, et puis il y a, comme tout citoyen, la responsabilité face à la loi. Il y a vraiment besoin de quelque chose en plus, d'un échelon supplémentaire?
Je pense que cet échelon peut être utile pour rapprocher la presse de son public. Mais effectivement, vous avez, moi, ce qui m'inquiète, en fait, dans cette histoire, c'est que personne ne s'empare de la question des réseaux sociaux. Or, la fabrique de la haine, la mécanique de la délation, c'est beaucoup plus aujourd'hui le fait d'anonymes sur Internet, qui se réfugient justement derrière le masque de l'anonymat sur Internet, que des journalistes qui, vous le rappelez, sont déjà sous surveillance et sous contrôle.
Mais justement, si ce ne sont pas des journalistes, en quoi ça concerne la presse et le CDJM?
Mais parce que quand on fait allusion aux mauvaises pratiques, etc., la fabrique de la fake news, à tout ce qui peut aller dans le sens d'une mauvaise information, la responsabilité, à mon avis, elle est beaucoup moins le fait des journalistes qui ont déjà, qui obéissent à des chartes, qui obéissent à des sociétés de journalistes, qui obéissent aux lois, effectivement, qu'il y a ce problème des réseaux sociaux dont personne n'arrive à s'emparer et il n'y a pas de régulation des réseaux sociaux alors qu'il y a déjà de multiples régulations de la presse. Alors, c'est utile d'avoir ce conseil de déontologie, mais il ne va pas répondre à toutes les questions, et donc il faudra le compléter, certainement. Et puis, il faut attendre de voir. Moi, j'espère surtout qu'on va être rassuré, parce que je comprends quand même ces sociétés de journalistes. La tentation du pouvoir politique d'exercer comme ça une forme de tutelle sur la presse, elle a toujours existé en France, depuis l'Ancien Régime, et ce quinquennat est quand même très particulier de ce point de vue-là, parce qu'on sait qu'il y a eu une certaine forme de virulence, parfois même de brutalité verbale, voire physique. On se souvient d'Alexandre Benalla, de la manière dont il se comportait à l'égard des journalistes. Donc il y a un contexte très particulier. Je crois que ce qui explique la réaction de cette vingtaine de rédactions, c'est qu'on a le sentiment que le quinquennat d'Emmanuel Macron est marqué par une grande défiance à l'égard de la presse. Il y a Jean-Luc Mélenchon. On pourrait rappeler que Cédric O, secrétaire d'État au numérique, avait lui, alors il l'a regretté aussitôt, je crois que c'était une maladresse de communication, mais il avait souhaité la création d'un conseil de l'ordre des journalistes qui pourrait retirer l'agrément aux journaux, alors qu'il n'y a pas d'agrément. Les journaux n'ont pas besoin d'agrément pour exister, on n'est plus sous l'Ancien Régime. Donc il avait tout de suite regretté ses propos. Mais ça veut dire qu'il y a un contexte particulier, une forme de méfiance de la part du pouvoir politique à l'égard de la presse. C'est à mon avis ce qui explique la réaction de ces sociétés de journalistes.
Mais quelle va être la légitimité de cette instance, puisque justement il y a une vingtaine de sociétés de journalistes qui ne la reconnaissent pas?
Alors, les débuts, si on prend un exemple proche de nous, qui est celui de la Belgique, les débuts avaient été aussi difficiles en Belgique et il a fallu du temps pour que cette instance, finalement, trouve une forme de légitimité auprès des lecteurs et aussi auprès des journalistes et des journaux d'une manière générale. Donc, je crois que ça sera la même chose. C'est en acte qu'on va voir, peu à peu, comment... Prenons une affaire comme l'affaire Dupont de Ligonnès, la vraie fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Ça prouve bien qu'il y a... c'était pas une fake news, il n'y avait pas une intention de fabriquer une fausse information, mais il y a eu des erreurs journalistiques qui ont été commises par précipitation, par volonté d'être le premier à sortir cette info, et tout le monde s'est trompé, même l'AFP. Donc je crois qu'il y a, c'est typiquement le genre d'affaire qui, a posteriori, ce conseil n'émettra pas d'avis a priori, ça ne sera pas une censure, mais ça sera a posteriori qu'on pourra réfléchir avec le public à comment améliorer ses pratiques collectives, et je crois que c'est une bonne chose.
Merci Alexis Lévrier, spécialiste de l'histoire du journalisme et maître de conférences à l'université de Reims. Vous étiez l'invité du 5-7.